Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Mercredi, je vous dis pas, bonjour, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma et les en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Roland, bonjour tout le monde.
Et de Philippe, bonjour Philippe.
Bonjour.
On commence ces projections, Martine, avec Le Petit Prince.
Alors c'est après, vous savez, il y avait déjà eu des films sur Le Petit Prince, parce qu'évidemment c'est très tentant de faire un film là-dessus. Il y avait eu un film musical de Stanley Donen en 74, et puis il y avait eu aussi une série télévisée sur la 3, je crois, en 2010. Et bien aujourd'hui, il y a un film d'animation de Mark Osborne qui sort, en adaptation très libre, mais très brillante, du conte mythique de Antoine de Saint-Exupéry. Ça dure 1h50. Alors, ça semblait, je vous l'ai dit, assez difficile de garder le charme et la fraîcheur du livre, de pénétrer dans l'univers très personnel de Saint-Exupéry. Eh bien là, le réalisateur a réussi. Il a choisi de raconter l'histoire d'une petite fille vivant à notre époque, dans un monde d'adultes raisonnable et respectueux des normes, et de sa rencontre avec un vieil aviateur très original. Elle est curieuse et courageuse, il est excentrique et farceur, et l'histoire du petit prince les réunit. C'est grâce au petit prince qu'elle va découvrir l'importance des rêves, le respect de la différence et surtout la force de l'amitié. Tout ce qui aide à vivre quand on devient adulte. Avec les paroles du renard, rappelez-vous, je serai pour toi unique au monde et tu seras pour moi unique au monde. La magie et la poésie du texte de Saint-Exupéry est toujours présente. Par l'animation traditionnelle, image par image, et des dessins de toute beauté. Les personnages du conte originel apparaissent l'un après l'autre. Le petit prince qui apparaît dans le désert à l'aviateur et qui lui demande « Dessine-moi un mouton !» Le renard qui dit « Apprivoise-moi !» L'essentiel est invisible pour les yeux. La rose qui est unique pour celui qui l'aime. Avec les voix d'André Dussolier pour l'aviateur, Marion Cotillard, la rose, Vincent Cassel pour le renard, Guillaume Gallienne qui fait le serpent. Croyez-moi, c'est magique et c'est ravissant.
Le Petit Prince, diffusé cette semaine, aujourd'hui à 18h au cinéma. Et on continue, Philippe, avec La Belle Saison.
C'est un film français de Catherine Corsini, avec deux actrices principales, Cécile de France et Isia Higelin, qu'on retrouve dans ce film. C'est un film que les critiques ont adoré. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller le voir. Il paraît qu'il est pas mal. Donc, ça se passe en plein dans les années 70, début des années 70, avec la révolution un peu féministe, avec la libération sexuelle et tout ça. On retrouve Carole et Delphine. Alors, Carole, c'est Cécile de France, qui est une Parisienne. Elle est en couple avec Manuel et elle est en plein dans les débuts du féminisme hein, à Paris. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et Delphine, elle, c'est Isia Higelin, donc qui est de la campagne, une fille de la campagne qui monte à Paris pour, comme beaucoup de monde, s'échapper un peu de la famille, commencer un peu à travailler et gagner son indépendance financière. Et bien, les deux femmes, Delphine et Carole, vont se rencontrer à Paris et vont alors vivre une histoire d'amour qui va se heurter à la réalité en plein dedans, puisque c'est donc une histoire d'amour homosexuel avec ces deux filles. Et puis là, c'est un peu les débuts du féminisme, c'est un peu le début de tout ça, la libération sexuelle. D'ailleurs, on en parle encore un petit peu encore maintenant, donc c'est un film qui se passe 40 ans en arrière, mais qui finalement reste un peu dans son époque.
La Belle Saison à découvrir ce mercredi à 20h, le vendredi 28 août à 22h ou bien le lundi 1er septembre à 18h au cinéma. Et là, ça n'a rien à voir, Tête de Philippe.
Ah oui, c'est une comédie.
C'est super drôle.
Oui, la suite de Ted, c'est réalisé par Seth MacFarlane, qui avait réalisé d'ailleurs le premier volet de Ted, qui a réalisé aussi entre les deux Albert à l'Ouest, qui était pas mal. Et puis bien sûr, le créateur d'American Dad, la série animée, qui est très drôle aussi. Alors il y a Mark Wahlberg toujours dans ce film, dans le rôle de John, Amanda Seyfried et Morgan Freeman aussi qui est là-dedans, et puis Joy Starr dans la version française dans le rôle de Ted.
Voilà. La
voix de Ted. Et puis dans la version originale, c'est Seth MacFarlane lui-même qui double la voix de son personnage Ted, de son gros nounours. Alors ils sont devenus les deux meilleurs amis du monde maintenant, Ted et John. Et vont s'aventurer sur quelque chose qui n'est pas de tout repos, c'est de légaliser l'existence de Ted.
Et oui.
Eh ben oui, parce que c'est un nounours.
C'est un nounours, exactement.
C'est un nounours. Alors jusque-là, dans
mais
le premier.
Mais il veut devenir homme.
Bah oui, dans le premier film, voilà, ça nous posait déjà un problème de voir un nounours qui buvait des pierres et puis qui fumait un peu. Eh ben.
Un petit peu beaucoup.
Un petit peu beaucoup. Là, il faut le légaliser parce que finalement, il travaille. Et là, il veut se marier avec sa copine Tamilyn. Voilà.
Qu'on retrouve aussi dans le premier, d'ailleurs.
Ouais. Donc, ils ont emménagé tous les deux ensemble. Ils sont toujours à Boston. Voilà, ils veulent se marier. Ils veulent même faire un enfant, voilà, pour consolider leur couple. Et donc, il va falloir légaliser Ted. Voilà, puisqu'il va falloir faire de Ted eh bien, une personne.
Un homme avec un grand H.
Voilà. Et le problème, c'est que la cour du Massachusetts va refuser ce statut à Ted et va lui octroyer le statut de propriété. Donc, c'est la propriété de John.
Forcément, c'est son nounours.
C'est un objet, en fait,
oui,
voilà.
C'est un
alors,
jouet.
Le problème, c'est que du coup, John ne peut plus l'adopter. Et puis, il va être licencié de son travail parce qu'il travaillait un peu au magasin. Et du coup, il va être viré, voilà. Alors, il va canaliser sa frustration. Il va essayer de restaurer ses droits et demander à son ami John de pouvoir de l'aider, de poursuivre en justice la cour du Massachusetts.
Rien que ça.
Ah non.
Ça rigole pas. Hein.
Ils vont engager un avocat qui est un jeune activiste qui veut légaliser marijuana en plus. Hein. Et alors du coup Ted va être vite débouté. Ils vont s'engager dans une autre aventure. Ils vont partir vers New York pour essayer de convaincre un autre avocat, mais très célèbre, celui-là, c'est Patrick Meighan, qui va monter un gros dossier pour essayer de donner les droits d'humain à cet ours, Ted, qui est, comme n'importe quel Américain, accro un peu à la bière.
Exactement. Ted 2 à découvrir cette semaine au cinéma LA. C'est aujourd'hui à 22h ou bien le mardi 1er septembre à 21h. Les 4 Fantastiques, Philippe.
C'est réalisé par Josh Trank, c'est son deuxième long métrage, donc les 4 Fantastiques qu'on connaît un peu, c'est de la science-fiction bien sûr, c'est la suite des 4 Fantastiques et des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent qui était sorti aussi. Bon alors, pour ceux qui sont fans un peu de cet univers, c'est un peu décevant, on va dire, un peu long.
Tu as été déçu.
Ouais voilà, le réalisateur, je crois que même le réalisateur a été un peu déçu lui-même de son film.
Par son film, ouais. Donc ça vaut très bien.
Parce qu'il a posté un message sur Twitter, alors que normalement, on n'a pas le droit de le faire. Dans le monde d'Hollywood, c'est un peu mal vu de poster un message sur un film qui est en cours de distribution. Et il a quand même posté un truc. Il a dit que, il rêvait d'un film que finalement, il n'a pas pu faire. Donc, je pense qu'il a été bridé par quelques sponsors, par beaucoup de choses. Et que lui rêvait d'un film. Et il a dit que le film dont lui rêvait aurait sûrement plu aux fans et tout ça. Enfin, voilà. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé après, au début d'un film et puis jusqu'à sa conception. Il se passe beaucoup de choses.
En gros, c'est un gros mea culpa du réalisateur.
Je pense que lui a été un peu déçu aussi de l'accueil que les gens lui ont réservé. Parce que c'est vraiment. Les critiques sont un peu nulles, quoi. Il a fait la moins bonne audience. Je crois que le score du box-office qu'il a fait, mais ça s'est jamais vu dans le monde des films de super-héros comme ça. C'est tellement bas que tout le monde a été un peu surpris. Et donc, ils sont encore en train de se demander s'ils vont bien faire une suite. Parce que c'était prévu,
mais
vu les scores, quoi. Donc, on retrouve toujours nos 4 jeunes scientifiques dans ce film qui se téléportent dans un univers parallèle, très dangereux d'ailleurs, qui va faire subir à leur corps des transformations. Et donc, comme leurs vies sont à jamais transformées, c'est ce qu'on en sait plus un peu sur l'origine en fait des pouvoirs de ces 4 jeunes. Eh bien, ils vont devoir apprendre à maîtriser ces nouvelles capacités, puis travailler ensemble pour encore une fois sauver la Terre d'un ancien ami devenu ennemi. Voilà, alors il y a plein d'effets spéciaux. Bon, ils sont pas tous très bien réalisés aussi. Donc, ça n'aide pas le film.
Merci Philippe, on a bien compris. Tu as été déçu par les 4
Fantastiques. Oui, il n'y a pas que moi. Hein.
Jeudi 27 août à 18h ou bien lundi 31 août à 18h aussi pour les 4 Fantastiques. Floride, Philippe, c'est pour la suite.
Et là, ça n'a rien à voir puisque c'est un film français, une comédie dramatique réalisée par Philippe Le Guay. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelait Le Père de Florian Zeller. Et on retrouve Jean Rochefort et Sandrine Kiberlin dans ce film, dans le rôle du père et de sa fille. Alors, il a 80 ans passé, Jean Rochefort, il s'appelle Claude Lhermenier dans ce film. Et donc, lui, il est toujours bien habillé, costume, foulard. Et on le retrouve au début du film dans un avion. Qui part pour la Floride. Voilà. Alors, pourquoi est-il en arrivé là? C'est ce qu'on va découvrir un peu plus tard dans ce film, puisque en fait, c'est sur un coup de tête qu'il est parti. Il est parti rendre visite à sa fille cadette, qui s'appelle Alice. Elle est mariée à un Américain. Ils sont installés à Miami. Et donc, pourquoi Claude est parti ? Eh bien, ça vient de Carole, en fait. C'est donc Sandrine Kiberlain. C'est l'aînée de ses filles. Elle est la mère d'un fils de 20 ans. C'est pas facile pour elle puisque en fait son père, donc Jean Rochefort, est en proie à des troubles de la mémoire. Il a des petites absences de temps en temps et c'est difficile un peu de savoir vraiment, de connaître vraiment son état parce que le problème c'est que des fois il surjoue un peu de ses absences, il le fait exprès, ça, du coup ça agace sa fille. Et puis des fois il le fait vraiment pas exprès et du coup voilà, ça fait peur à sa fille surtout. Donc c'est des fois drôle parce qu'il le fait exprès et puis des fois ben, on a un peu de pitié pour lui parce qu'il le fait pas exprès et puis ben, tout le monde a vraiment très peur et ben, tout le monde sait pas trop quoi faire et donc voilà, on découvrira dans ce film pourquoi eh bien, il s'est envolé sur un coup de tête pour la Floride.
Floride à découvrir cette semaine au cinéma, ce jeudi 27 août à 20h ou bien le dimanche 30 août à 18h. Mission Impossible Rogue Nation. Philippe, c'est pour la suite.
Alors, dans le genre film de science-fiction, voilà un film bien réalisé.
Un film d'action plutôt.
Un film d'action, oui, action, un petit peu de science-fiction, mais beaucoup d'action quand même. C'est un cinquième volet de Mission Impossible, réalisé par Christophe McQuarrie, qui avait réalisé, qui n'avait pas réalisé de Mission Impossible auparavant, puisque lui, c'est son troisième film en tant que réalisateur, mais il avait quand même travaillé sur le scénario de Protocole Fantôme en 2011, et puis sur Usual Suspects en 1995, un film qu'on ne présente plus. Il avait d'ailleurs eu un Oscar du meilleur scénario pour ce film, avec donc Tom Cruise, qui est là depuis 1996 dans le rôle d'Ethan Hunt, qui fait ses cascades lui-même. Il y a Simon Pegg aussi, qui est là depuis le troisième volet, ainsi que Jeremy Renner. Et nous retrouvons toute l'équipe de la Mission Impossible Force, qui est dissoute par le gouvernement, voilà, parce qu'ils jugent que les résultats sont bons, mais qu'il y a trop de casse à côté, hein, il y a trop de dommages collatéraux.
Donc, un peu trop de voitures cassées, un peu trop de morts.
Voilà, un peu trop de bâtiments explosés, un peu trop de tout. Donc, eux, ils veulent des résultats, mais voilà, sans toucher à rien. Mais des fois, on est obligé. Hein, voilà, donc, c'est ce qu'arrête pas de dire Ethan Hunt dans ce film, parce que bah, lui, il va se retrouver du coup isolé, tout seul. Et il doit affronter un réseau d'agents spéciaux particulièrement entraînés qui s'appelle le Syndicat, une organisation sans scrupules qui veut mettre un nouvel ordre mondial et puis faire des attaques terroristes un peu partout, de plus en plus violentes. Il va donc, Ethan Hunt va donc retrouver quelques membres de son équipe pour se faire une alliance, tous les quatre, mais voilà, sans l'appui du gouvernement. Et ils vont retrouver Ilsa Faust, une agent britannique révoquée, qui a quelques liens avec le syndicat, mais on ne sait pas trop. Enfin voilà, c'est un peu mystérieux. Il y a des agents doubles, triples, quadruples. Et donc, ils vont essayer tous ensemble d'éliminer le syndicat. Donc, comme vous l'aurez compris, bien sûr, il y a plein d'actions, plein d'explosions dans ce film donc de Mission Impossible.
D'ailleurs, une course en moto très spectaculaire.
Ah oui, course en moto. Enfin, c'est vraiment de l'action pure et très bien faite.
Mission Impossible à découvrir, à redécouvrir cette semaine, jeudi 27 août à 22h au cinéma Ilé, ou bien le samedi 29 août aussi à 22h. Les Mignons Martins, c'est pour la suite au cinéma Ilé.
C'est une animation qui est dérivée de la saga « Moi, moche et méchant » qui est réalisée par Pierre Coffin et Kyle Balda. Alors, c'est une petite bestiole jaune, on les connaissait déjà, on les avait déjà vus, et ils deviennent maintenant personnages principaux du film. Ils étaient au service de maîtres assez contestables, depuis les tyrannosaures jusqu'à Napoléon. Mais comme ceux-ci ont disparu, les mignons sont déprimés. Et ils doivent partir à la recherche de patrons malfaisants, très malfaisants.
Des très 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 méchants.
Mais oui, ils veulent des méchants. Ils vont faire un voyage passionnant pour trouver la plus méchante de l'histoire, c'est-à-dire Scarlett Overkill. Et ils vont se balader depuis l'Antarctique en passant par New York jusqu'à Londres, où ils font face à une terrible menace.
Et oui.
C'est pour tous les âges, c'est très drôle, les mignons sont très mignons, je vous l'ai dit. Et pour les adultes, il y a des rappels très sympas de la pop anglaise des années 60. Il y a beaucoup de clins d'œil, des trouvailles. Jusqu'à la toute dernière minute du générique de fin, c'est comme le film précédent. Vous restez assis dans vos fauteuils jusqu'à la fin.
Même pour les adultes, il y a certains dialogues que les enfants ne comprennent pas.
Voilà, mais c'est souvent parce que sinon les parents n'accompagneraient pas leurs enfants.
Et il y a certains dialogues aussi que les parents et les enfants ne comprennent pas parce que c'est des mignons.
Ah bah voilà.
Ah bah ouais.
Ah bah oui, ils ont un langage de mignon.
Tout à fait.
Ah bah faut apprendre.
Exactement.
Hein.
Faut apprendre le mignon.
Mais oui.
Bon courage. Les mignons à découvrir, banana, ou à redécouvrir cette semaine au cinéma LA, vendredi 28 août à 18h. Will Were Young en version originale sous-titrée Philippe.
Avec Ben Stiller, Naomi Watts et Amanda Seyfried dans ce film réalisé par Noah Baumbach. Nous allons suivre l'histoire de Josh et Cornelia Srebnick, qui est donc incarné par Ben Stiller et Naomi Watts. C'est un couple qui a la quarantaine, ils sont mariés, heureux, tous les deux. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants, mais eux, ça ne leur pose pas de problème. Et Josh va s'acharner sur le montage d'un documentaire qu'il est en train de réaliser. Et l'inspiration lui manque un peu. C'est un peu... il manque quelque chose dans ce documentaire qu'il est en train de faire. Et ils vont rencontrer tous les deux Jamie et Darby, un autre couple, mais un peu plus jeune, de 20 ans plus jeune.
Et beaucoup plus babacool.
Bah oui, un peu plus babacool, un peu plus libre. Ils ont 20 ans, eux, ils ont tout à faire. Et ça va apporter à Josh et à sa femme une petite bouffée d'oxygène et ouvrir une porte vers leur passé. Surtout la jeunesse qu'ils auraient aimé avoir et que finalement, ils n'ont pas eu parce que... Là, on voit des jeunes et puis on se dit « ils font tout ça ». Et ils disent « j'aurais bien voulu faire ça, finalement, merde, j'ai loupé des trucs ». Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, Josh et Cornelia vont délaisser un peu les amis de leur âge qu'ils ont pour fréquenter ces jeunes cool branchés. Donc, ils vont sortir ensemble, tout ça, faire la fête. Une relation avec ces deux couples qui ont 20 ans d'écart pour essayer d'apporter peut-être un nouveau souffle à ce couple de quarantenaires.
Will Were Young en version originale sous-titrée cette semaine au cinéma LA, vendredi 28 août à 20h. Une famille à louer, Philippe, c'est pour la suite.
Une comédie française de Jean-Pierre Améris qui avait réalisé Les Émotifs Anonymes ou encore Marie Hurtin récemment. Alors on retrouve Benoît Poulvorde, Virginie Efira et François Morel dans ce film. Donc une comédie française avec Benoît Poulvorde, il y en a eu beaucoup. Et on se demande si c'est pas un peu en train de s'essouffler un peu.
C'est un peu fatigant comme
un peu fatigant, hein,
voilà. Comme comédie.
C'est du vu et revu, j'ai l'impression, un peu toujours la même chose. Alors,
c'est exactement toujours la même chose.
Ouais, voilà. Là, c'est l'histoire de Paul André, il a la quarantaine.
Et en plus, c'est mal joué.
En plus, dis donc, ils n'ont rien pour eux.
C'est un avis personnel.
Je pense que ça doit être partagé aussi par quelques personnes. C'est un homme timide et plutôt introverti, ce Paul André, il a la quarantaine. Il est riche, beaucoup riche.
Très, très, très riche.
Très riche, mais il est tout seul. Voilà, beaucoup, 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 très tout seul. Il est juste avec son chauffeur, majordome, interprété par François Morel.
C'est lui qui tire l'épingle du jeu dans ce film.
Ouais, c'est ce que je pensais. C'est lui qui vraiment un peu sort du lot dans ce film. Les autres, je pense qu'ils se sont un peu assis sur leur laurier.
Complètement.
François Morel est toujours un peu drôle. Ce Paul André, incarné par Benoît Poulvorde, il s'ennuie tout seul. Il s'ennuie profondément. Et il finit par comprendre que... Peut-être ce qu'il a besoin, c'est d'une famille. Voilà, puisqu'il est tout seul, il ne veut pas d'amis, mais pour une famille, peut-être. Hein, une femme, des enfants, tout ça. Peut-être que ça peut animer un peu sa vie. C'est ce qu'il va se dire, mais lui, il n'a pas envie de s'engager dans n'importe quoi. Donc, il va rencontrer Violette, une quadragénaire qui est pleine de peps et à fond. Le problème, c'est qu'elle est menacée d'expulsion. Elle a peur de perdre la garde de ses deux enfants. Et elle roule pas sur l'or, hein, contrairement à Paul André. Donc, il va lui proposer un contrat. En tout bien tout honneur, bien sûr, c'est de louer sa famille. Parce que ça ne se fait pas encore. Voilà. Donc, il va racheter ses dettes. Et puis, Violette et ses enfants vont s'installer chez lui et puis jouer à faire comme si c'était sa famille.
Non, lui va s'installer chez elle.
Ah, lui va s'installer chez eux, voilà, pour sortir un peu de son, de son palace.
De son palace tout vide.
Voilà. Eh bien, ils vont jouer à la famille, en fait. Voilà. Alors, pour le meilleur, bien sûr, et aussi pour le pire.
Ouais, surtout le pire dans ce film.
Surtout le pire, ouais.
Une famille à louer, samedi 29 août à 18h, au cinéma. Les Mustang en version originale sous-titrée. Martine, c'est pour la suite.
C'est le premier long-métrage de la réalisatrice turque Deniz Gamze Ergüven. Et c'est un magnifique film, à ne pas rater. L'histoire se passe en Turquie, près d'une petite ville de province où vivent 5 sœurs. Elles ont perdu leurs parents et sont élevées par leur grand-mère. Elles ont entre 18 et 11 ans à peu près. Elles sont gaies, elles sont libres, elles sont heureuses de vivre. Mais le dernier jour de leur année scolaire, elles passent à la plage et s'amusent avec des garçons, au lieu de rentrer directement chez elles. Cela déclenche les commérages du village, puis l'inquiétude de leur grand-mère, puis la colère de leur oncle qui est chargé d'elle et qui va les enfermer dans la maison au nom de la vertu et les prive peu à peu de tout ce qui leur liait au monde extérieur. Plus d'école, plus de téléphone, des grilles aux fenêtres, des grilles aux portes. La plus jeune regarde tout ce que subissent ses sœurs. Elle réfléchit et elle sait, elle comprend qu'elle refusera toujours d'être privée de liberté. C'est très bien construit, c'est magnifiquement filmé. Les jeunes actrices sont remarquables. Elles font vivre les cinq sœurs avec leur caractère et leurs aspirations différentes. Les scènes sont rapides, c'est précis. Ça donne beaucoup à deviner, enfermant les personnages dans un décor qui se rétrécit au fur et à mesure et une ambiance de plus en plus irrespirable. C'est du vrai cinéma qui fait vivre une histoire poignante qui est symbolique du poids dévastateur des traditions.
Mustang en version originale sous-titrée le samedi 29 août à 20h au cinéma Élé. La femme au tableau en version originale sous-titrée, Philippe.
Puisque c'est un film dramatique britannico-américain réalisé par Simon Curtis, il y a Hélène Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl et Cathy Holmes dans ce film qui était adapté d'une histoire vraie. Nous faisons la connaissance de Maria Altman, qui est un jeune avocat de Los Angeles, et il va tomber sur une affaire qui, il est loin de douter ce qui l'attend. C'est une septuagénaire un peu excentrique qui va le contacter pour lui confier une mission un peu insolite. C'est de l'aider à récupérer un tableau de Gustav Klimt, un des plus célèbres tableaux, qui est exposé dans le plus grand musée d'Autriche. Le truc, c'est qu'elle assure que ce tableau appartenait à sa famille. Voilà, alors elle veut le récupérer, bien sûr. Il est un peu sceptique, l'avocat, forcément, puisque c'est quand même le plus grand musée d'Autriche. Mais il va laisser se convaincre par cette petite vieille attachante. Elle va lui raconter, bien sûr, toute sa vie, sa jeunesse, et pourquoi ce tableau est dans sa famille. Alors, elle remonte à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, avec l'invasion nazie, où ils ont récupéré tous les tableaux. Ils ont tout mis ensemble. Elle a fui aux États-Unis. Mais le problème, c'est que l'Autriche ne veut pas laisser ce tableau s'en aller. C'est un peu la Joconde autrichienne, hein, surnommée ce tableau. C'est un tableau vraiment très, très connu. Et ils ne veulent pas le laisser partir à sa propriétaire. Donc, ils vont intenter un procès au gouvernement autrichien, cet avocat et cette petite vieille, pour essayer de faire valoir leurs droits. Et puis, de récupérer ce tableau et prendre une revanche donc sur l'histoire.
La femme au tableau en version originale sous-titrée ce dimanche 30 août à 20h au cinéma Élé. Martine, on poursuit avec Amy en version originale sous-titrée.
Voilà, c'est fait par Asif Kapadia. C'est un documentaire avec et sur la vie de la chanteuse Amy Winehouse, une grande artiste aux nombreuses récompenses avec ses propres paroles, sa musique et des images d'archives inédites. Elle est née en 1983, décédée en 2011 à Londres. Elle était auteur, compositeur, interprète, avec une voix très caractéristique qui a été comparée à celle d'Ella Fitzgerald ou de Sarah Vaughan. Sa musique mêlait jazz, blues et soul, et elle fut récompensée par de nombreux prix, des Grammy Awards en 2007 par exemple, meilleure nouvelle artiste, album de l'année, chanson de l'année avec Rihanna. Elle attira aussi l'attention des médias par sa vie personnelle très compliquée, par son look, par ses tatouages, son trait d'eyeliner très soutenu qui inspira évidemment les designers de mode.
Amy en version originale sous-titrée cette semaine au cinéma Élé le dimanche 30 août à 22h. La Isla Mínima, Philippe, c'est en version originale sous-titrée.
Et nous partons en Espagne dans les années 1980, juste après le régime de Franco. Donc c'est un thriller espagnol d'Alberto Rodriguez et nous allons découvrir un assassinat sauvage de deux adolescentes qui se sont déroulés pendant les fêtes locales d'une petite ville en Andalousie. Alors il y a deux policiers de Madrid, de la capitale, qui vont être envoyés dans ces marais du Guadalquivir pour enquêter sur cet assassinat dans cette petite région dans les années 80 qui est encore bien ancrée dans le passé. Et où règne bien la loi du silence. Donc ils vont devoir, ces deux policiers, surmonter leurs différences pour essayer de démasquer le tueur dans ces marécages, dans cette région marécageuse. Un film qui a très bien marché en Espagne. Et il y a d'ailleurs même une route qui a été créée dans ces marais du Guadalquivir et qui retrace un peu l'histoire du film et qui s'appelle La Isla Mínima.
à découvrir cette semaine au cinéma et en version originale sous-titrée le lundi 31 août dès 21h. Philippe, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Ben, on se retrouve tous au cinéma.
Merci Martine, rendez-vous en grande forme dès la semaine prochaine.
Eh bien, on se retrouve au cinéma, bien entendu, quasiment tous les soirs.
Et demain, dans Je vous dis pas, de l'humour avec l'humoriste Christelle Chollet. Elle sera présente au festival Facici à Mouilleron-le-Captif le dimanche 6 septembre prochain. On la découvre demain dans Je vous dis pas. Bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.